Écoute, déjà, je vais te laisser te présenter. Donc,
D'accord, donc je m'appelle Clément Floriel, 18 ans, je vais avoir 19 là dans 12 jours. Et donc voilà, on m'a contacté assez récemment. Le festival Doustock m'a contacté pour faire leur scène pour la soirée de lancement du crowdfunding. Et donc en fait, c'est suite à ça que j'ai dit bah ouais, bien sûr, c'est une expérience professionnelle. Enfin, c'est toujours enrichissant de faire des expériences comme ça. Donc bah ok, ça marche, je vous suis les gars.
C'est sympa. Alors on va présenter vite fait vite fait ou pas vite fait. D'ailleurs, on a eu l'occasion de voir tout à l'heure. Vous êtes deux sur scène, donc avec ton collègue Paul, tu me disais. Vous avez un petit spectacle, une petite scène. Comment s'appelle la séquence que tu nous as présentée tout à l'heure?
Alors la séquence, ça a été longuement débattu et finalement ça s'est appelé le complexe du moi.
Le complexe du moi, donc c'est assez conceptuel comme nom. Sur scène c'est assez conceptuel aussi, mais c'est, enfin, nous avec mes collègues, on a trouvé que c'était en termes de mise en scène très réussi en fait. C'est-à-dire qu'on est tout de suite pris dans votre univers, ça mélange humour, un peu de métaphysique, philosophie, etc. Et c'est quelque chose que vous travaillez comment? Déjà, est-ce que c'est un texte original?
Alors, c'est un texte que j'ai écrit moi-même. À la base, je l'avais écrit, en fait, ça s'appelait Persistance du reflet. Donc, il y a 2 mois, j'étais à une scène ouverte à Espace 1-2-3 à côté de chez moi. Et donc, je l'avais écrit suite à ça. Et donc là, en fait, suite à me recontacter, je l'ai retravaillé. Pour que ça fasse un format un peu plus important et que ça amène de façon plus intéressante, et parce que c'était un café-concert, vraiment je voulais l'amener d'une façon que ça percute plus l'auditoire, et donc l'audimat, et j'ai fait juste partie de là, donc c'était vraiment l'idée de quelqu'un qui présente comme une sorte de one-man show ou quoi que ce soit, avec quelqu'un, un de ses sous-fifres en fait, voilà. qui est lui. Mais en fait, le paradoxe dans cette scène-là, c'est qu'au début, c'est vraiment un stagiaire qui est là. Et donc, au début, je suis vraiment le stagiaire oui. Un petit peu boulet de service, oui. qui est très gestuel et qui ne prononce pas beaucoup de mots, parce que finalement, il n'a pas le langage facile.
Tu commences presque uniquement en mime d'ailleurs.
C'est ça, complètement en mime, oui, parce que moi, je suis en formation de danse sur Genève.
D'accord.
Donc je suis en Suisse moi, mais j'habite dans la région, c'est mon lieu de résidence là. Et donc voilà, vraiment j'ai commencé en mime là-dessus. Et en fait, petit à petit dans la scène, j'aime bien alterner des ruptures, des scènes de rupture, des choses très drôles, des choses assez dramatiques. Mmh. Les amener là-dedans, amener le public vraiment dans cet univers-là, complètement décalé et pleurer à des endroits où il faudrait rire et rire à des endroits où il faudrait, ouais, faudrait pleurer. Et donc, ça se pose la question de, en fait, est-ce que l'assistance n'est pas finalement quelqu'un qui lui appartient qu'à lui? En fait, cette personne-là, c'est pas son esprit à lui qui lui joue des tours? Et en fait, est-ce que c'est pas de la schizophrénie ou de la paranoïa ou des choses comme ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, ils savent pas vraiment qui je suis dans le rôle
et qui est qui,
voilà, ouais. C'est ça. Et donc après, bon, à la fin quand même, la conclusion, c'est que je suis une partie de lui, donc une sorte de miroir,
ouais.
Mais quand il se voit dans le miroir, en fait, il voit un homme qui est absolument horrible atroce,
voilà. Il ne se reconnaît pas
exactement. Et puis après, en fait, je m'adresse de façon plus générale au public et je lui dis, est-ce que vous êtes comme ça, vous? Et donc c'est comme ça que j'appréhende la chose et que j'emmène les gens vers ça.
C'était très bien, c'était très fin, et vraiment la mise en scène, votre rôle de duettiste tous les deux, on sent que vous êtes très complices, ça se voit comme ça sur scène, et les gens ont beaucoup adhéré, en tout cas ça donne envie de vous suivre. Vous avez un nom ou c'est juste vos noms, prénoms?
C'est nos noms, prénoms, pour l'instant il n'y a rien de...
D'accord.
Rien de, voilà, moi j'écris des choses, il y a d'autres choses que j'ai envie de mettre en scène, des choses comme ça, peut-être avec plus accès sur la danse, des choses comme ça, le mime, le clownesque... Et le théâtre, évidemment, parce que moi, je viens du Conservatoire de Rouen, donc d'accord. J'ai une formation théâtrale en lettres plus classiques, voilà. J'ai mangé du Shakespeare, du Molière, et vraiment, j'avais envie de trouver cette liberté-là et de m'exprimer à travers un vécu personnel aussi, de trouver des liens, des connexions avec ce que j'écrivais Voilà, et puis en fait l'écriture ça m'a apporté plein de choses et je me suis senti libre et vraiment la mise en scène je l'ai créée à partir du texte là parce qu'en fait quand j'écrivais le texte je m'imaginais les choses. Donc c'était vraiment là que je suis parti, voilà, et c'était ça, ouais, bon, le truc.
En tout cas, mais merci de m'avoir accordé ces petits instants et puis on vous souhaite la meilleure chose pour tous les deux et puis pour chacun dans votre coin ou ensemble, voilà, et on espère vous revoir prochainement en tout cas. Merci beaucoup.
Merci.
Donc on est donc avec Peggy, donc Peggy qui est Peggy Le Guerne, c'est ça, si je fais pas de faute, je prononce bien.
Ça. Oui, c'est ça.
D'accord.
On a déjà pas mal parlé de toi nous dans l'émission puisque tu es l'artiste qui se produit avec le groupe The Bird's End. Donc c'est toi qui fais des prestations artistiques, je dirais plutôt graphistes pendant les scènes. Donc Delphine qui est avec moi. Aime particulièrement.
Ah oui, moi j'ai adoré, oui.
Et on voulait savoir un petit peu pourquoi tu étais là ce soir dans le cadre de Hoopstock Café. Quel était ton rôle? Et puis on voit que tu exposes, tu dessines. Quel était le but de cette soirée?
En fait, Théo de l'asso m'a contacté pour savoir si ça me dirait de venir exposer. Enfin, déjà parce que lui il me connaissait par The Bird's End, mais après il savait pas si je dessinais moi de mon côté, donc je dis oui, donc allez hop, c'est parti. Et puis comme on avait fait le festival l'année dernière avec le groupe, il faut soutenir les petits festoches, donc pas de soucis, moi je suis là.
C'est une bonne idée. Alors c'est vrai que tu étais avec une collègue dessinatrice qui maintenant a dû partir, donc c'est Audrey Denis. Donc vous exposez toutes les deux. Et je vois qu'il y a beaucoup de dessins sur la table. C'était un petit stand d'initiation un petit peu ou c'était ça s'est improvisé finalement?
Non, c'est improvisé. Non, c'est juste dit, tiens, on va dessiner les gens. Et puis, du coup, il y a généralement, toujours quand tu dessines, et les enfants qui viennent, c'est automatique.
Ça donc, marche bien, ouais.
Voilà, donc, c'est un moyen d'expression. Je trouve que les enfants, de moins en moins, par à l'école, tout ça, vraiment le dessin pur, je parle pas des arts plastiques, mais vraiment apprendre à dessiner, tout ça, c'est quelque chose qu'ils ont de moins en moins, donc ils sont demandeurs. Donc,
oui.
Ils viennent d'eux-mêmes, donc voilà.
Et toi, c'est ta formation, c'est ton métier?
Alors, pas du tout, enfin, non, moi je suis apprentie tatoueuse, j'ai changé de métier il n'y a pas longtemps, parce qu'avant je travaillais au Parc de Claire, j'étais animatrice conférencière, je faisais des ateliers avec les enfants. Sinon le dessin c'est à côté, il y a le projet The Bird's End qui prend quand même une grosse place. Et puis voilà, et puis là en ce moment je travaille aussi, je vais travailler avec Louis-Marie Zaccaron-Bart qui fait partie de la Yule Company, qui est un conteur, et là actuellement il travaille sur un nouveau conte où il travaille avec Adrien de Neuyn. Et il m'a demandé de faire des prestations de peinture sur scène avec eux. Ça va se travailler en 2016.
D'accord, donc une année assez chargée finalement.
Ça vient tout seul en fait. Mais c'est bien, parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez timide, donc je ne vais pas chercher à exposer ou quoi, je ne fais pas trop ces choses-là. Mais du coup là ça vient tout seul, donc je dis je suis courant.
Il faut prendre ce qui vient. Hein.
Voilà.
Et un truc qu'on se demandait, là c'est vrai qu'on revoit tes dessins et tes œuvres, ça, c'est vrai que ça rappelle ce qu'on peut voir sur scène, tes performances. Et quelque chose qu'on se posait comme question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est scénarisé avant le concert, ou c'est des dessins que tu improvises sur scène en fonction du moment, ou comment ça se passe?
Normalement, c'est improvisé. Sachant que pour le deuxième EP, on l'a construit autour d'un conte. Et après, il y a les personnages récurrents, donc forcément, ils reviennent sur scène. Mais par contre, non, il n'y a rien de scénarisé. C'est total impro.
Donc à chaque fois, c'est des dessins différents, quoi. Vraiment,
c'est
une œuvre unique. Il faut la voir.
Voilà,
d'accord.
C'est ça.
Et moi, d'ailleurs, je voudrais pousser un gros coup de gueule. Parce que quand
attention,
même...
Et là, ça va gueuler fort.
Ah, mais deux fois, j'ai vu un concert. Deux fois, j'ai craqué devant les dessins. Puis à la fin, tu les arraches sous mes yeux. J'ai juste envie de sauter sur scène et te dire « Arrête !»
T'as quand même récupéré un t-shirt.
Un t-shirt, c'est vrai, j'ai un t-shirt. Mais moi, je veux ça, là, chez moi.
Alors, c'est vrai que bah, plus ça va, ouais, plus je les déchire. Mais en fait, c'est parce que c'est sur le moment. Enfin, avec les gars, on se dit c'est une performance. Et bah, les dessins aussi, en gros, eux aussi sont une performance. Alors, je sais que des fois, il y a des personnes, je sais que ça m'est arrivé avant. Surtout, tu te dis, t'en déchires pas un. T'en gardes un, s'il te plaît. Du coup, c'est vrai, du coup, j'y pense. Mais sinon, oui, c'est vrai que généralement, tout part.
C'est un peu énervant.
Oui.
C'est frustrant, non mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire, mais là on voit que tu dessines pas uniquement lors des concerts, tu dois certainement dessiner, et puis il y a des choses vraiment, c'est vrai que dans les concerts on sent que c'est dans l'instant, dans le mouvement, c'est un peu plus, comment dirais-je, figuratif, abstrait peut-être, et on voit qu'il y a des dessins qui sont très très détaillés en fait dans ce que tu fais à côté. D'ailleurs, on a aussi l'album de The Burden, et c'est toi qui as fait le dessin, et tu as plusieurs cordes à ton arc en fait finalement.
Alors c'est vrai, ce qui est frustrant du coup pour moi sur scène, c'est que comme du coup c'est sur le moment, c'est sur le vif forcément qu'il y a des grosses erreurs de dessin, que voilà.
C'est pour ça que tu les déchires.
C'est pour ça que je les déchire. Ah, c'est vrai que quand je dessine des corps, je suis oh là 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 là, c'est pas du tout proportionné, mais en fait c'est pas grave, enfin c'est sur le coup. Et donc voilà, je fais des choses plus précises. Et aussi là, en ce moment, c'est bien, ce qui est bien aussi, c'est que le dessin comme la musique t'évolue tout le temps. Et là en ce moment, avec Béné là, au salon d'Ekili Jekyll, il me pousse justement à dessiner autrement. Parce que pour le tatou, t'es obligé de...
Faut se forcer, voilà.
Voilà. Du coup, ton dessin se transforme et du coup, bah, en fait, ça...
T'acquiers de nouvelles compétences.
Voilà, ça vient, ouais. Ça vient avec le temps, parce que là, je débute, donc...
Et donc, oui.
Et là, tout ce qui est exposé là, c'est en vente, en fait.
J'ai envie de dire oui, mais en fait, ce qui est, c'est que moi, la relation avec la vente, j'ai un peu... J'ai du mal. Déjà, les dessins de Burgen, je les donne, souvent, j'ai toujours eu du mal avec cette relation-là, avec l'argent par rapport à l'art, quoi. C'est quelque chose d'un peu compliqué pour moi. Mais parce que j'ai toujours vécu avec un job à côté, donc pour moi, c'était pas vital de... Enfin, c'est pas comme un artiste qui vit que de ça et qui a besoin de... Donc du coup... Et puis il y en a tellement... Il y en a certains, je suis tellement attachée que je sais même pas si je pourrais arriver à les vendre.
Ah oui, en plus, ce sera un déchirement finalement.
Donc, et puis c'est difficile de mettre un prix sur ce que tu fais. Enfin, je trouve ça, c'est compliqué.
Ouais. Surtout quand c'est pas ta philosophie en plus de te dire...
Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est donner un prix, ouais, d'accord, je sais pas. Voilà.
En tout cas, c'est très très joli. Comme c'est dans, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est uniquement, enfin, dans les tons noir et blanc. Hein, même sur scène, The Bird Zen, c'est du noir et du blanc. D'ailleurs, c'est quoi la peinture blanche? Enfin, ce qui donne le reflet un peu blanc, voire.
C'est de l'huile. C'est de l'huile.
D'accord. Ah, en tout cas, ça rend très bien. Ouais. C'est très joli et ça. Enfin, on a pu nous profiter, si vous avez l'occasion, de voir The Bird Zen sur scène et donc Peggy et ses performances et les musiciens, parce que faut quand même pas. C'est vraiment un ensemble. Vraiment, vous êtes trouvé, ça colle parfaitement bien. On avait mis des vidéos de Hoopstock et puis de. Bah, vous avez fait la Mort Bleue, la convention Mort Bleue. Donc, vous avez vu. Et vraiment, c'était vraiment quelque chose de très sympa à voir et à écouter et auquel participer, quoi, vraiment. En tout cas, bah écoute, merci à toi pour ces quelques instants. Et donc, on rappelle Peggy Le Guern. Et bah, si vous avez l'occasion de la voir ou de chercher un peu ses œuvres, peut-être sur internet, t'as un site ou quelque chose?
Alors, j'avais un site, sauf qu'il est en construction. Et sinon, dans Facebook, mais je poste pas beaucoup de choses. Enfin, c'est vrai que je suis pas très communicative, moi.
Alors, bah, c'est ça, hein.
Ouais, c'est clair. The Bird Zen, oui, là, ça, c'est sûr, ça, on communique, ça. Et puis non, sinon à Ekili Jekyll à Évreux, salon de tatou, voilà.
Ok, bah écoute, merci et puis bah bonne continuation et certainement à bientôt alors.
Merci.
Salut. Donc là on est avec d'autres personnes, donc je vais vous prendre vos noms.
Chloé.
Chloé qui est donc bénévole pour le Hoopstock et...
Clément.
Clément, donc si vous arrivez à l'entendre, parce qu'il a plus de voix, il travaille tellement ce garçon qu'on l'entend presque plus. Donc toi Clément, tu fais quoi?
Je gère la trésorerie.
Tu gères la trésorerie, donc avec Adrien qui est trésorier, non c'est lui?
Adrien est passé vice-président.
D'accord. Et donc bah, comment ça se passe pour vous? On va peut-être plus laisser Chloé quand même parler si ça te dérange pas. comment ça se passe, comment on devient bénévole dans un festival, dans un, ou même dans une soirée comme, comme aujourd'hui?
Bah, moi, ça s'est simplement fait par connaissance. J'en ai connu un, deux, etc. Et du coup, bah, je me suis retrouvée en tant que bénévole à Hoopstock cet été, donc l'été 2015. Et donc bah, là, je suis revenue et voilà, du coup.
D'accord, donc c'est les copains, c'est, on vient filer un coup de main aux, aux copains pour les aider dans leur grande aventure, parce que c'est quand même pas une mince affaire quand même cette, cet événement.
Voilà, c'est ça, et puis comme c'est sympa, c'est une bonne ambiance partout en tant que bénévole ou en tant que personne extérieure qui vient, donc c'est agréable, c'est sympa. Et puis,
pas trop fatigant quand même?
Bah si, forcément, mais bon, c'est sympa à faire, donc c'est pas trop grave que ce soit fatigant quoi.
Voilà, je profite de t'avoir, mais c'est au nom, enfin c'est pour tout le monde, hein, c'est, enfin nous on a participé cet été, et c'est sympa, c'est que tous, autant que vous êtes là, vous gardez le sourire du début à la fin, malgré la fatigue, malgré tout. Donc, comment c'est votre nature, tous, d'être comme ça, ou c'est vraiment vous vous forcez à rester sympa?
Non, mais je pense que c'est aussi qu'on s'entend tous bien, que ça coulisse bien, entre guillemets, et tant qu'il n'y a pas de tension, tout ça, c'est agréable à faire. Du coup, on prend tous plaisir à le faire, quoi.
D'accord. Donc, pour 2016, vous êtes tous repartis partant pour refaire l'expérience?
Bah, s'ils veulent toujours de nous, oui, hein.
A priori, il n'y a pas de raison. Il y a un autre bénévole tiens, qui passe là, on va peut-être l'interroger. Bah, viens, si, t'en vas pas. T'en vas pas. Comment tu t'appelles, toi?
Florentin.
Florentin. Donc, on a eu Chloé en tant que bénévole. Toi, tu es là depuis quand dans l'aventure Hoopstock? Depuis le début ou depuis cette année?
À peu près depuis le début.
Depuis le début?
Ouais, à peu près, ouais.
Et, pareil, et comment t'es arrivé dans cette aventure, toi aussi?
Bon, je connais Clément et Simon depuis l'âge de 1 an.
Ah ouais, ça fait quelques années quand même, hein. Vous êtes jeune, mais ça fait quand même quelques années.
Oui, d'accord.
Mais cela étant, on peut connaître des gens depuis longtemps et pas forcément les accompagner, les épauler. Donc qu'est-ce qui fait qu'on passe le cap?
On va rester ensemble, on s'amuse, il y a de la musique, il y a des gens cool.
Ouais, beaucoup de boulot, c'est ce que je disais tout à l'heure à Chloé, c'est que quand on voit les deux jours de festival, la première année c'était qu'une journée, mais cette année c'était deux jours. Vous restez quand même très, très souriant, très, très agréable pour le public. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même... Vous prenez un peu sur vous sur la fin ou vous gardez quand même une super dynamique?
Non, bah, y a l'esprit qui va ensemble, c'est une ambiance générale. Donc on va pas pourrir, on va pas se prendre la tête pour parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a beaucoup de boulot, ça sert à rien. C'est l'ambiance qui veut ça et puis il y a beaucoup de potes, il y a des connaissances, donc on va pas se prendre la tête avec ça.
Dans ce qu'on voit,
on a envie de faire nous, donc si on se saborde nous-mêmes, ça, on va se planter.
Voilà, gardez quand même l'esprit cool, tranquille entre potes, tout en étant très pro dans l'organisation, dans l'accueil, dans la prépa, dans tout. Enfin, on voit dans l'événement qu'il y a aujourd'hui, donc bah, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est de continuer finalement, quoi. Donc, cette année, tu es de nouveau là les premiers de juillet alors.
J'ai posé 15 jours de vacances pour pouvoir. Ouais,
parce qu'il faut certainement derrière récupérer, quoi. Certainement.
Ouais.
Ok. Bah écoute, on va vous remercier et puis bon, on vous souhaite bon courage pour la suite, pour le lancement de Ulule, qu'on espère un succès. Et puis nous, on va le relayer à notre niveau en espérant que bah, ça vous apporte quelques euros, quoi.
Et pour finir, présenter Florentin, c'est le barman en chef.
C'est le barman en chef. Il me semblait bien que je l'avais vu parce que je suis allé plusieurs fois au bar lors du festival. Et il me semblait bien qu'il avait une tête
c'est
qui me disait quelque
qui
chose.
Gère. C'est lui qui gère tout ce qui est bar, tout ce qui est restauration.
D'accord.
C'est lui.
Et ben, félicitations en tout cas parce qu'on était forcément bien accueillis.
Surtout, merci aussi Dany et Léo de Carrefour Market à Montville qui nous ont vraiment bien aidés tant sur les niveaux des tarifs que sur la qualité de la bouffe. C'est grâce à eux qu'on a pu proposer de si belles assiettes.
Bah là oui, parce que c'est vrai que là, on parle surtout, donc c'est de l'audio, mais j'ai pris quelques photos. C'est vrai que c'était des très belles assiettes, bien présentées en plus. Enfin, il y a tout. Vous joignez l'utile à l'agréable. Enfin, tout est bien préparé. Alors, c'est pas pour passer la brosse à reluire particulièrement, mais c'est vrai que l'accueil, le contexte, la déco et tout.
Le but de la soirée, c'était surtout de valoriser notre image au maximum. C'était le premier but. Le deuxième, c'est de rembourser nos frais. Ce qui est visiblement avec l'expert comptable fait.
C'est fait, bah tant mieux.
C'était le deuxième point le plus important. Après, c'est l'image. Et je pense que là, du ressenti, on a demandé à droite à gauche. C'était ultra positif. Donc,
l'image, la communication.
Oui. On s'est donné les moyens pour le temps, la motivation. Puis on est entre potes pour l'organiser. Donc, c'est pas pareil qu'au boulot. Si on veut se prendre une pause, on la prend. On n'a pas demandé à personne. Si on veut manger un bout pendant que les autres travaillent, bah, c'est pareil.
Très bien, bah écoute, merci beaucoup, merci Chloé également, et puis bah on se revoit certainement cet été alors. À plus. Et donc l'entrepode se balade à Hoopstock. Nous sommes avec Ludo, Arnaud, Starlet aussi qui n'est pas avec nous là, mais on participe puisque là cette fois-ci c'est un Hoopstock café puisque l'équipe de Hoopstock lance un financement participatif sur Ulule. Et donc on va avoir Théo qui est ici, une vieille connaissance, hein, mais qui cherche à ramener ses collègues. Bon, en même temps, à leur décharge, ils ont déjà enregistré. Un problème technique fait qu'on est obligé de le refaire. Donc, je comprends. Donc, voilà le président.
Excusez-moi.
Il n'y a pas de problème. Et donc, le monsieur en question, comment s'appelle-t-il ?
Simon.
Simon, tu es donc ?
Président de l'association Hoopstock, qui existe depuis maintenant 3 ans. 3 ans, septembre 2013.
2 ans.
2 ans, exactement. Ouais, 2 ans et quelques, 2 ans et quelques. Mais non.
On se rattrape
mutuellement.
Quand je dis... Rôle de duettiste, c'est beau.
Voilà, c'est ça. Quand je dis une connerie, il a rattrapé.
Encore le troisième, mais pas là.
Et le troisième, c'est Adrien.
Adrien, voilà.
En tout cas, là, ce soir, on était là pour le lancement de la campagne Ulule. Donc, puisque vous lancez, enfin, ça, c'est la semaine prochaine, si j'ai bien compris, que la campagne, enfin, dans la semaine qui vient. Pouvez-vous nous en dire plus ? Pourquoi une campagne Ulule ? Voilà.
Une campagne Ulule parce qu'on a ressenti vraiment cette année le besoin de faire franchir une... d'apprêter le festival à franchir une grosse marche. La grosse marche, on la sent venir un jour ou l'autre. Ce ne sera pas cette année, pas l'année prochaine. Mais ça arrivera un jour, ce sera de changer de lieu. Un jour, on arrivera fondamentalement à changer de lieu, à sortir de la salle. Et avoir vraiment un terrain du festival. Mais avant d'initier ça, on voulait vraiment dégager des fonds de par le projet créatif qu'on avait avec la métropole de Rouen, par le projet Ulule, et même par la recherche de sponsoring qu'on s'apprête à commencer là bientôt, à réunir les fonds suffisants pour développer 2 axes majeurs qu'on s'est donné cette année, c'est l'accueil du public et l'accueil des artistes. En soi, ça ne veut pas dire grand-chose. L'accueil du public, c'est la mise en place d'un camping. C'est quelque chose qui nous a été réclamé maintes et maintes fois les années précédentes. Pour des questions légales et financières, ça n'a pas pu être fait avant. Là, cette année, on est sur des bonnes pistes. On pourrait, avec Ulule, avec la métropole, avec le sponsoring, avoir les finances nécessaires pour payer tout ce qui est barriérage, sanitaire, sécurité. C'est des coûts... Les gros coûts du camping, c'est vraiment voilà, le barriérage. C'est des centaines de mètres de barrières qu'il faut louer. Et c'est de la sécurité. C'est vraiment des gens à payer pour faire toute la nuit la sécurité dans le camping.
Et tout le système des sanitaires, enfin, ça a l'air un détail trivial, mais super important quand même. Dans un festival où ça boit beaucoup de bière.
C'est super important, mais on se tourne plus vers un système de toilettes sèches. Donc écolo. Nous, on a les ressources en matériaux pour construire nous-mêmes les toilettes et les gens qui savent gérer ça aussi. À base de.
Légalement, on est obligé de fournir un accès sanitaire voilà, sur le camping. On est obligé. Sinon, ça fait partie des conditions du truc.
Pour avoir le droit de l'autorisation de mettre en place un camping.
Voilà, si je ne me trompe pas, c'est ça et c'est pour ça.
On est obligé d'accueillir dans des certaines normes sanitaires. Après, c'est un truc aussi qui est quand même très important à dire, c'est que les normes ne sont pas vraiment claires. Pour la mise en place d'un camping temporaire, ce n'est pas les mêmes règles que pour un vrai camping. On a du mal à trouver la vraie législation pour un camping au minimum. On sait que dans un camping fixe, par exemple, ils sont obligés de donner accès à chaque campeur 200 litres d'eau par jour, par personne. 200 litres d'eau par jour par personne, c'est énorme, quoi. Nous, on ne peut pas assurer ça. Maintenant, voilà, faut qu'on se renseigne toujours un peu plus pour savoir vraiment comment on peut gérer ça. Mais on n'est pas dans un camping temporaire fondamentalement, puisque c'est un camping qui est à côté d'un festival qui va rester établi. On n'est pas dans un camping sauvage, on n'est pas dans un camping fixe. Donc c'est beaucoup de recherches. Mais financièrement, voilà, c'est beaucoup de coûts en sanitaire quand même, même si on fabrique nous-mêmes les toilettes sèches et qu'on les gère nous-mêmes. c'est du coup de sécu, parce que la sécu, on ne peut pas passer à côté. Et surtout, voilà, le barriérage, toutes les infrastructures, c'est des centaines de mètres de barrières qu'on doit louer et installer. Donc ça, ça coûte cher. Deuxième point, du coup, c'est l'accueil des artistes. L'accueil des artistes, Théo, je pense que tu en parleras mieux que moi.
Théo, alors ?
Ouais. Pour le coup, en fait, sur les deux éditions qu'on a faites jusqu'alors, on a eu la chance d'avoir pu accueillir des artistes relativement compréhensifs et gentils sur le fait que on n'avait pas un budget colossal, voire même un petit budget, parce que jusque-là, en fait, on est un peu autofinancé, quoi. Et voilà, mais du coup, on aimerait bien changer la donne, parce que déjà, pouvoir accueillir les gens, que les groupes de Rouen puissent jouer avec des groupes qui viennent d'ailleurs, qu'on peut financer, et essayer d'avoir quand même un mélange qui se fait. Et pour ça, il faut quand même des moyens, puis rémunérer les gens, parce que ça se fait. Et puis même si on n'a pas pu le faire, c'est pas pour ça qu'on n'a pas envie de rémunérer les gens comme ils le méritent, quoi. Donc voilà, donc ça nous demande un peu de sous quand même.
Une question sur ce qu'on était sur
le... Oui, Ludo.
Oui, et du coup, je vais revenir juste sur un point, c'est que ce qui avait marqué ce qui nous avait marqué quand on avait quand on était venu voir le festival en juillet, c'était le professionnalisme des équipes, et ce qu'on considérait vraiment différenciant, c'est par rapport à l'amateurisme qu'il peut y avoir parfois dans certains festivals. Là, en l'occurrence, vous faites vraiment la différence par rapport à ça, et donc je voulais comprendre un petit peu vos parcours et comment vous êtes arrivé à construire une équipe où manifestement ça fonctionne, quoi.
Après, là-dessus, je pense que déjà le fait qu'on le fasse ça depuis longtemps. Alors les gars ont des souvenirs que j'ai des souvenirs que eux n'ont pas. On a commencé à faire ça assez tôt, c'est-à-dire à l'âge de 14 ans quand on était au collège. On a commencé à organiser des concerts, donc ici sur la commune de Loupeville, grâce à la mairie, le fait de la musique. On a fait des concerts pour, je dirais pas tout et n'importe quoi, mais presque, pour le Téléthon, pour l'UNICEF, pour l'avenue du printemps, pour tout ce qu'on veut bien. Histoire de faire des concerts, et puis un jour ou l'autre, Simon, il est venu nous voir, Adrien et moi, chacun de notre côté.
Vous êtes le trio, le cœur du truc, quoi, c'est ça.
Et Simon, il est venu nous voir en disant, bon les gars, je veux faire un festival, vous me suivez ou pas? D'accord. Voilà, et du coup, en gros, on lui a dit oui.
Et donc Simon, tout vient de chez toi alors?
Enfin,
et comment se répartit
ce rôle? On s'est toujours posé la question entre nous. Enfin, voilà, dire comment on fait un concert un peu plus, voilà. Et c'est Simon qui a un peu.
Comment on passe le cap, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et puis, ce que je voulais savoir, c'est qui fait quoi, en fait. Enfin, on a compris président, mais en pratique, comment vous répartissez les tâches?
C'est Simon qui a pas encore beaucoup parlé.
Adrien.
Putain, pardon.
Bonjour, professionnalisme.
Ça, en fait, ça a commencé vraiment quand Simon et moi, on faisait du théâtre avec Vincent Dubot. Notre prof qui faisait aussi de la régie, et en gros, nous on faisait le théâtre et on installait le spectacle où il y avait théâtre et danse. Et Simon, lui, était un petit peu plus passionné par le son et moi plus la lumière. Donc du coup, quand Simon m'a appelé, il m'a laissé un message, Adrien, on se lance, on fait un festival, rappelle-moi. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, ouais Simon, il m'a dit, on fait un festival, qu'est-ce que tu fais, tu me suis ou pas? Moi, je ne vais pas dire comme un con, mais je le pense un peu. J'ai dit, ok, je te suis. On en reparle. Bon, on en a reparlé, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Mais du coup, en gros, on était parti sur Simon, il va gérer beaucoup plus le son, moi plus la lumière. Et puis au final, Théo, qui ne faisait pas de théâtre, qui n'a pas appris tous avec nous, mais lui qui a continué la musique, qui a continué ses groupes, et au final, Théo, il amène le côté contact avec les groupes.
La programmation se partage entre vous trois ou...
La programmation. En général, c'est quand même toi qui la propose, Théo, et nous, on la valide ensemble. Mais après, sur le moment du festival, c'est vraiment toi qui gères tout le contact avec les groupes, tout l'accueil des artistes et tout, quoi.
Donc la vie est bien faite, vous êtes tous les trois absolument complémentaires, quoi.
C'est ça. On s'est un peu cherché pour ça, mais en fin de compte, ouais, enfin, du coup...
Sans chercher, ça s'est fait comme ça, c'est que, voilà, au moment de la préparation, Simon, il va gérer le son, je vais gérer la lumière, et puis, Théo... Bon, il n'est pas forcément dans la technique, mais on sait qu'on n'a pas de problème. Tous les groupes vont être bien reçus. Théo, il gère la programme, par exemple, comme ce soir. Théo lui a dit, il nous faut ça, ça, ça. Il nous a dit, j'ai tel groupe. Le théâtre, Simon a trouvé du théâtre parce qu'il a du contact dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis après, nous, on l'a géré ce soir. Théo, il a géré tout l'accueil des groupes. Il nous dit, au final, les poussins devaient jouer à 22h. On les fait jouer à 20h parce qu'ils ne peuvent pas jouer à 21h.
Nous, on sait qu'il n'y a aucun problème, on dit ok.
C'est approximativement, c'est ça.
Dans l'idée, c'est cet esprit-là, c'est ça.
Et du coup, ça part de vous trois. Et maintenant, quand vous êtes arrivés à fédérer toute une équipe de bénévoles, parce que on a vu ça
quelques-uns au micro tourner.
Quand vous êtes arrivés à fédérer donc une équipe de bénévoles autour de vous,
c'est tous très non, en offrant l'apéro surtout.
À base d'apéro, qu'est-ce que tu fais tel soir? Nous on te paye l'apéro. D'accord, je viens. Bon, alors par contre, si tu pouvais venir nous aider à installer la scène, mais on paye l'apéro. Et là, tout de suite, ça ramène du monde.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme je disais, c'est que les bonnes volontés individuelles, ça ne suffit pas toujours. C'est que ça veut dire, il faut quand même avoir des gens qui, en gros, vous disent pas ouais, je viens. Et puis, en fait, vous chie le truc. Or, c'est pas ce qui se passe.
Au fil du temps.
Les bénévoles, c'est aussi, en fin de compte, ce qui nous a marqué la première année et la deuxième année surtout. C'est qu'il y a eu un vrai investissement de leur part. Et eux-mêmes, en fin de compte, petit à petit, se sont pris au jeu et sont toujours demandeurs, en fin de compte, de retrouver cet état. Cet état d'esprit-là où ils sont heureux de bosser ensemble dans un truc qu'ils kiffent, qu'ils aiment bien.
Toujours professionnel. Enfin, il y a pas de.
Pour l'exemple de Romu l'année dernière, qui était au bar, mais il a fait. Il a fait son boulot jusqu'au bout et il a su. Voilà. Romu, viens voir. On parlait de l'investissement des bénévoles.
Oui, moi je pense que surtout les bénévoles, au final, c'est vraiment. Là, ce que vous avez vu ce soir, c'est la vraie bande de potes. Parce que vous nous avez vu ce soir, mais vous venez le week-end prochain, c'est les mêmes. Même si on ne fait rien, mais on va se retrouver tous ensemble le week-end prochain. Le week-end d'après. Ça sera les mêmes. Le week-end d'après, peut-être pas, parce qu'on a un autre truc. Mais on se voit au final presque tous les week-ends. Et c'est surtout au final, je pense, des vrais potes qui sont un peu fiers de ce qu'on fait, qui ont envie de nous aider, de nous soutenir. Et qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous aider, puis porter le truc. Au final, ils passent de simples bénévoles. Puis au fur et à mesure, ils commencent à rentrer dans le bureau, dans le CA. Et puis ils demandent, moi, est-ce que je peux avoir un rôle? Est-ce que je peux être reconnu? Et puis voilà. Et puis,
une grande découverte l'année dernière, c'était Florentin Pochon, là, qui est au bar, qui a géré le bar l'année dernière. C'est un ami de la maternelle. Voilà,
il m'a dit depuis que vous aviez un an, je crois.
En fait, j'étais chez la même nourrice que lui. Et on ne s'est jamais fondamentalement perdu de vue. Quoi. C'est le réseau où Peuville est. Et lui, maintenant, a fait ses études, en fin de compte, dans la restauration. On s'est retrouvés, il est venu filer un coup de main. Il a géré ça très bien. Hein ? Ouais, il bosse à l'hôtel de Bortroul, quand même, il faut le dire, merde.
Lieu assez reconnu à Rouen. Hein.
Voilà. Et voilà, maintenant, en fin de compte, là, par rapport à ce soir, par exemple, il y avait un gros travail qui a été fait au niveau de la bouffe. Et c'est absolument pas nous trois qui l'avons fait, quoi. C'est vraiment lui qui l'a organisé.
À calculer au poids près.
C'est le seul à nous étonner. Il est arrivé en réunion avec un calepin de 5 pages. Il a fait des dossiers pour tous les gens qui sont présents à la réunion, avec un détail explicatif de on va faire ceci en assiette de charcuterie, on va faire ceci en assiette de fromage, ceci, cela, avec un détail, des plannings, cela. Et voilà, c'est le seul qui fait ça et c'est très très pro.
Nous, un bénévole comme ça, il a fait un dossier, on n'a pas lu le dossier. Il nous a expliqué le truc, mais on a lu vite fait, on a su que c'était réglé, on a dit, si tu veux, nous à la limite, au lieu du pâté de campagne, on va mettre de la rillette. C'est tout ce qu'on a dit, voilà.
C'est marrant, quand on parle des bénévoles, ils arrivent
en fait, non, c'est pas une question, mais c'est vraiment une bande de potes, certes, mais une bande de potes compétents, quoi. C'est vraiment.
On est assez franchouillard entre nous, enfin, on se connaît bien, on connaît. Parce que pour certains, on est vraiment ensemble, du coup, là, comme Simon, depuis tout petit. Moi, j'étais en primaire avec les autres, on s'est retrouvés tous au collège, et puis du coup, on se connaît vraiment depuis longtemps. Et il n'y a pas de lézard entre nous, et du coup, tout marche, tout coïncide, et puis ça peut arriver des fois.
C'est compliqué, mais bon. Parce que le problème, c'est que c'est vraiment des bons potes, et souvent, c'est quand il y a un problème, on prend vraiment sur nous. Ouais, parce que c'est délicat, on se dit moins les choses. Mais par contre, quand on se les dit,
ça part sévère.
On se les dit.
Bon, je vais reformuler ça en disant que le stress à l'occasion des événements, le Hookstock Café, ça va. Le festival génère plus de stress chez nous tous. Nous tous à la même dose et on le gère chacun de notre façon. Voilà, et il y a tout le contraste en étant dirigeant de l'association, on se doit un minimum de rester toujours impassible et exemplaire devant tous les bénévoles, devant tous les gens qui sont rassemblés autour de ça. Mais après, on reste des gamins. Et on reste. Non, mais des gamins, des gamins vraiment. Voilà, enfin, nous, c'est un truc qui nous amuse, mais il y a un moment où la pression, quand même, au festival, des fois, devenait assez intense. Et où, voilà, il y a des réactions qui s'enchaînent et ça part. Mais bon, ça, voilà, ça dure jamais très longtemps et on se rétablit vite. Et
si on revient à la soirée de ce soir, justement, qui lançait le Ulule, comme on le disait tout à l'heure, déjà, je trouve que c'est intéressant de ne pas juste lancer un Ulule comme ça et puis de balancer ça sur les réseaux sociaux, mais de l'accompagner d'une vraie soirée artistique. Oui, Arnaud ?
Peux-tu expliquer à certains de nos auditeurs ce qu'est un Ulule ?
Bah, Ulule, c'est un peu comme nous pour Tipeee, c'est un financement participatif, tu as raison en fait, c'est-à-dire que nos amis ici présents lancent une campagne sur un site de crowdfunding, donc de financement participatif, qui s'appelle Ulule, donc qui est un site français je crois, dans lequel vous avez un souhait de récupérer, comme tu nous le disais tout à l'heure, des financements pour lancer le festival sous d'autres... avec d'autres ambitions, entre guillemets, ou pour le lancer un petit peu, quoi. Et donc, ce soir, vous avez lancé le Hoopstock Café, qui est donc la soirée de lancement de ce Ulule avec... On l'entend derrière, là, c'est plutôt une partie un peu électro, mais on a vu on a eu du théâtre, on a eu du rock, on a eu du stand-up, on a eu plein de choses. Comment vous est venue cette idée de faire cette soirée Vas-y, je te laisse.
Alors, en fait, cette idée est venue qu'on avait une date à Hoopeville le 9 janvier. Au départ, on devait faire une pièce de théâtre, donc amenée par Simon, comédien à Paris, avec sa troupe. Au final, la pièce est annulée. Et on s'est retrouvés un dimanche où on était tous les trois chez Simon dans le chalet, la base où on fait les réunions. Et en gros, on était là et on sortait toutes les idées possibles et imaginables. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et à un moment, l'idée du...
Le tournoi de Scrabble est sorti.
On l'a vite abandonné.
La pelote, c'était pas le public visé. Et du coup, à un moment, le café-théâtre est sorti. Parce qu'on avait déjà parlé avant, on s'est dit café-théâtre, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un peu de théâtre, de la musique, un bar. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du bar ? On essaie de créer l'espace que si nous on ouvrait un bar, ça nous ferait vraiment rêver. C'est ce qu'on essaie de faire ce soir. Un bar, la petite déco, du théâtre, de la musique. Et voilà, l'idée est venue comme ça. Et sans vous mentir, on est le 9 janvier et ça fait à peu près un mois qu'on a pris la décision de faire un café-théâtre.
Ce qui est assez rapide, ce qui est en soi un peu court pour du coup, c'est pas un gros événement, aussi gros que le festival, ouais, ça devrait un peu de monde quand même, pas mal de monde.
Sur la soirée, peut-être 200 personnes, pas loin.
Je sais plus,
tu penses, ouais.
On est incapable de dire vraiment le nombre exact parce qu'on n'a pas fait d'entrée payante, donc on peut pas compter les entrées, mais à vue d'œil, on dirait entre 150 et 200.
Ça a quand même pas mal circulé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont venus, qui sont partis, mais il y a des gens qui sont arrivés avec un gros pic vers 20h, il y a eu du monde. J'ai l'impression qu'il y en a un qui en garde encore un souvenir un peu ému, là, mais...
Ils ont souffert.
Compliqué. Nous, ce soir, les trois membres du bureau, on était censés, enfin pas rien faire, mais on devait être là, être sur notre stand Ulule, et puis aller voir à droite à gauche des groupes qui voulaient jouer au festival. On s'était donné rendez-vous, on devait leur parler. En fait, à 20h, on a vu qu'au bar, ils étaient en galère, que tout ce qui était déjà préparé, les assiettes de fromage et de charcuterie, il n'y avait plus rien. Donc nous, les trois membres du bureau, le stand Ulule, on l'a oublié, et on faisait des voyages entre la cuisine et le bar pour aider... Parce qu'ils se sont fait un peu massacrer, mais c'est très bien. Mais on ne s'attendait pas à voir autant de monde. C'était vraiment une bonne surprise.
Donc c'est une très bonne surprise. Alors si on peut juste faire un petit feedback sur l'année dernière, combien de personnes sont venues au festival sur les deux jours ?
350.
Donc 350 visiteurs, ce soir quasiment 200 personnes. On peut penser que vous avez quand même, pas préparé beaucoup, pas tellement anticipé, on sent que c'est quelque chose qui commence à fonctionner pas mal quand même, votre...
Les gens commencent à connaître le nom, sur Hoopeville du moins et ses alentours et nos partenaires. Après, c'est quelque chose qui, là j'avoue, ce soir, je sais pas à quoi c'est dû. Notre communication, elle a consisté à être sur Facebook un événement. On a fait un peu d'affichage dans Hoopeville. On a mis des flyers dans les cahiers des enfants à Hoopeville.
Parce que notre public visé, c'était les familles. On voulait vraiment faire un truc familial. Mais cette année, on a vraiment été étonné avec le café-théâtre. C'est au niveau de l'événement Facebook. On a tous notre réseau sur Facebook et il y a eu un nombre de partages mais inimaginable. Nous, on se voyait tous les jours et on disait « Est-ce que tu connais machin qui a partagé ?» On essayait de refaire le lien. D'où vient cette personne ? On n'avait pas d'amis en commun. Souvent, c'est Théo qui a des amis en commun parce que comme il a son réseau de musiciens, de studios et tout ça, on arrive toujours à trouver. Et là, Théo, lui, il ne connaissait pas, il nous demandait « J'ai aucun ami en commun. » On demande à Simon, personne. Et il y a eu un nombre de partages énorme. C'est et
bien,
au final,
c'est très bien, ce qui est bien, ouais, je ne m'en plains pas.
En parlant avec des gens de Noupeville, ils nous ont dit qu'il y a très peu d'Noupevillais ce soir. Les gens, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont venus quand même.
Donc c'est, on peut dire que c'est plutôt bon signe sur, sur la soirée, sur la campagne, et puis on l'espère sur l'avenir du festival. Quoi. C'est tout le mal. C'est tout le mal quoi.
Aussi, là, en fait, alors j'ai parlé de prix tout à l'heure, ce n'est pas le bon terme, mais la métropole, tu peux en dire deux mots en fait, là-dessus
La métropole, il propose le projet créatif pour les jeunes de 18 à 30 ans. Et en gros, on envoie un dossier par rapport à un projet comme Hoopstock ou que ce soit une création d'entreprise, n'importe quoi. Et ils étudient le projet. Si le projet les intéresse et convient à leurs critères, on a une audition. Donc on a eu l'audition. L'audition, on y allait avec Théo, c'était en novembre. On y allait super confiants, tous les deux, bien préparés. Chacun nos parties, bien préparés. Et en fin de compte, arrivé là-bas, ils ont dit non, il n'y a que le porteur de projet qui rentre. Donc je me suis retrouvé.
Simon étant comédien, voilà, au conservatoire à Paris. Bon, voilà.
Tout ça.
Du coup, tu as joué le rôle de Théo.
J'ai joué le rôle de Théo plusieurs fois, en étant à la fois inquiet, mais optimiste. Et on a eu la réponse deux semaines plus tard en nous disant qu'on était pris. Donc c'est 3 500 € qui tombent dans les poches d'Hoopstock à réinvestir bien sûr dans le festival. Mais il y a toute une convention derrière qu'on a signée qui nous oblige à pas mal de comptes rendus aussi. Et ça, c'est important pour nous aussi de rentrer dans cette démarche-là, d'avoir vraiment quelque chose de carré. C'était carré au festival, en effet, du point de vue technique, enchaînement, ce qu'on sait faire, nous. Il y a toute une partie, la partie immergée de l'iceberg, d'administratif, de déclaration, de compte, qu'on a beaucoup de mal à faire. Et la métropole, ça va nous imposer ça. On n'a pas le choix. Là, c'est en septembre 2016. On doit donner un compte rendu de l'action à la métropole. Il faut que ce soit carré au niveau finance, bilan et tout et tout. Donc, pour nous, c'est vraiment, je disais tout à l'heure, c'est la première marche, enfin le premier échelon de l'échelle qui va nous faire franchir la première marche vers l'autre Hoopstock qui sera autre part qu'ici. Mais ça, c'est encore dans longtemps. Mais on a franchi une première marche. C'est déjà ça.
En tout cas, voilà, c'est ce qui résume un petit peu, c'est que vous avez une bande de potes. On sent que vous vous éclatez, quoi. On l'a vu avec les bénévoles tout à l'heure. Mais par contre, vous faites quand même les choses sérieusement, avec une volonté surtout de vous. Enfin, ce qui est assez impressionnant, c'est de vous dire, on n'est pas au bout du chemin encore. On a encore une grande route devant nous et une humilité en fait.
Il y a une forme d'ambition, clairement, mais dans le bon sens du terme, hein, de ce que j'entends. Pas l'envie de s'arrêter là.
C'est juste dans l'idée de se dire qu'on a créé ça et on l'emmènera jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, dans la détermination.
Merci à tous en tout cas. Et puis on vous souhaite tout plein de succès. Peut-être, qui sait, peut-être vous inviter à notre micro courant avril-mai pour avoir un peu le résultat de votre tour. Peut-être qu'on pourra recouper en mars plutôt, tu dis ?
Oui, mars si possible.
Ça se termine quand la campagne, Ulule ?
Début avril justement.
Bah à ce moment-là, peut-être que courant mars, on pourra en parler pour voir où ça en est. Et puis, ça tombe bien, puisqu'on a un invité un mois sur deux maintenant. On en a en janvier. Donc, mars, ça pourrait tomber. On reste en contact. Et puis, on va relayer la campagne Ulule à notre niveau. Hein, voilà. Merci. Bon courage, en tout cas. Et puis, merci pour cette soirée qui était vraiment sympa.
Merci à vous pour ces retours. Ça nous va bien.
Merci à notre pod.
Soirée top. Merci Arnaud, Nico, Ludo et Delphine qui est resté dehors avec les enfants.
Longue vie à Hoopstock. C'est la fin de la soirée.
Longue vie à l'anthropode aussi.
Allez, bisous.
À plus, salut.
Allez,
à bisous.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. On est aussi sur iTunes et sur SoundCloud, ça c'est pour nous écouter. Et pour notre page de financement participatif à nous, il y a la page Tipeee. À chaque fois, en tapant Entrepod, vous nous retrouverez. On espère que vous avez passé un bon moment et on vous dit à bientôt.